d'église. J'ai appris que vous êtes en train d'étudier l'évangile de Luc. Super. Alors, on va prendre le Lévitique. Non, c'est pas vrai. On va prendre Luc. Et je crois même que vous êtes dans la partie 21, c'est ça, chapitre 21. Alors, j'ai choisi de me plier à votre programme. C'est super de faire du textuel comme vous faites. Et on va prendre Luc, chapitre 21, et verset 5. Voilà, à partir du verset 5, c'est le fameux discours de Jésus sur la fin des temps. Alors j'ai choisi ce discours, de l'exposer aujourd'hui, et de vous présenter ma lecture de ce discours. Ça pègue. Oui. Alors, servir en attendant, j'ai choisi ce titre, pourquoi? Parce que c'était, paraît-il, le titre d'une revue dans le passé de nos églises, et ça pourrait faire un bon résumé de mon exposé, de ma compréhension de ce discours. On va lire ensemble la parole de Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il me vienne en aide pour l'exposer, parce qu'il n'y a personne qui est assez sage pour exposer la parole de Dieu, et qu'il vienne en aide à tous ceux qui écoutent, parce qu'il n'y a personne qui est assez sage pour la comprendre si on n'est pas aidé par lui. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Je vais commencer donc la parole de Dieu dans Luc chapitre 21 et verset 5. Comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ?» Jésus répondit, Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi ». Et le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit « Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis même par vos parents et par vos frères, par vos proches, par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations. Ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlés. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Puis il leur dit une parabole. « Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que, par vous-même que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand j'ai dit que je me plierai à votre programme et que j'enseignerai ce qui suit dans votre prédication textuelle, quelqu'un m'a dit « Ah, mais c'est d'actualité !» Parce que j'avais choisi ce texte, qui d'ailleurs se retrouve dans les deux autres évangiles synoptiques. Vous l'avez aussi dans Matthieu, au chapitre 24, dans Marc aussi. Vous avez le discours de Jésus, c'est le discours sur la fin des temps. Et je crois que souvent, quand on lit ce discours, ça plombe un peu l'ambiance, non ? Hein ? J'ai plombé l'ambiance ? Désolé. Ok. Ouais, c'est vrai, on lit ça, on pense à la guerre en Ukraine, on pense au réchauffement climatique, on pense à la montée des eaux, et puis aussi, paradoxalement, au fait qu'il y ait moins d'eau aussi. On pense à la crise écologique, on pense à toutes ces personnes qui meurent de faim pendant que toutes ces personnes font du régime. On pense à l'injustice sur la terre, on pense à tout ça, et on se dit, ça y est, on est dedans, quoi. On est en plein dedans. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un discours dans les églises, dans le monde en tout cas, hein, et dans les églises quelquefois aussi, qui est un discours très, je dirais, alarmiste, catastrophiste, où on se dit, ben ça y est, c'est la fin, allez, on est des bons Français, tout fiche le camp, et là, ça fiche le camp encore plus, bon, c'était prévu, on va vers là, c'est comme ça, on met le casque, on serre les dents. C'est vrai que quand on lit ce discours, c'est terriblement solennel, vous ne trouvez pas ? Hein, c'est terriblement solennel. Mais aussi, je pense qu'on peut aussi faire l'erreur de un petit peu tout mélanger dans ce discours et puis se dire, mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire exactement ? Dans quel temps est-ce qu'on est en train de vivre, etc. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, cette dernière parole ? Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. De quelle génération il parle ? Il parle de la génération, de sa génération à lui, ou de notre génération aujourd'hui ? C'est pas simple, hein, ce discours, vous trouvez pas ? Hein, c'est compliqué, hein. Alors je voudrais juste essayer d'éclaircir un peu et vous donner en tout cas peut-être ma lecture, ma proposition de comment je comprends les choses. Je ne suis pas le seul à le comprendre comme ça, bien sûr, mais peut-être un peu d'éclaircissement sur le discours du Seigneur sur la fin des temps. Vous avez vu qu'en fait, les disciples, c'est un discours qui vient à la suite d'une question. Non, pas une, mais deux. Deux questions, d'accord ? Deux questions de la part des disciples. Alors, quelques-uns qui viennent, ils sont passés devant Jérusalem, ils ont vu le temple, ils ont été ébahis, ça les fait trop kiffer, c'est leur temple, ça c'est la fierté de la nation. Tu vois Jésus, ce temple ? Et Jésus qui leur dit, tout sera détruit. De nouveau, l'ambiance est plombée. Ils se retrouvent sur le mont des Oliviers, Jésus s'assoit, et là, il y a un comité restreint de gens qui veulent aller un peu plus loin, qui vont le voir. Dans un autre évangile, je crois que c'est dans Marc, ils sont nommés. C'est toujours les mêmes, ceux qui vont toujours un peu plus loin avec le Seigneur et qui lui disent « Qu'est-ce que tu as voulu dire là ?» Et le Seigneur répond aux questions. Vous avez remarqué que quand on lit la Bible, le Seigneur répond à nos questions quand on ne comprend pas. Il y a des choses compliquées dans la Bible. Des fois, il suffit de s'approcher de Dieu et demander « Seigneur, aide-moi ». On rencontre quelqu'un, on trouve un livre, ou des fois, l'explication traverse notre esprit, le Seigneur répond. Et il répond aussi à la question des disciples. Alors, aux deux questions des disciples. Quand est-ce que ça va arriver ? Tu dis que le temple va être détruit, ok. Et puis, quel sera le signe des choses de la fin ? Parce que finalement, pour un juif, la fin du temple signifie la fin des temps. C'est aussi simple que ça, ça peut paraître un peu narcissique. Mais voilà, si le temple est détruit, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va, quoi. Donc, deux questions qui, pour les disciples juifs, sont très liées. Et Jésus va répondre à ces deux questions. Il va répondre d'abord à la question sur la destruction du temple, et ensuite, il va répondre à la question sur la fin des temps. Et la question sur la fin des temps, il commence à y répondre quand vous avez vu les versets surlignés en jaune. Vous avez vu que dans le discours, finalement, ce n'est pas les versets les plus nombreux. Il prend beaucoup de temps pour parler de la destruction du temple. Répondre à la première question. Et c'était ce temple-là dont ils parlaient. C'est ce temple-là qu'ils ont vu quand ils se sont quand ils sont allés sur le mont des Oliviers, ils sont passés devant le temple que Hérode, le grand Hérode, Hérode le Grand, avait reconstruit sur les embases du temple, du deuxième temple. Et en fait, c'était un temple absolument extraordinaire. C'était la fierté de la nation juive. Il avait été commencé d'être construit en l'an 19 avant Jésus-Christ. Et il sera achevé d'être construit en l'an 63, certains disent 64 après Jésus-Christ. Vous imaginez un petit peu le chantier ? C'était vraiment une œuvre colossale, grandiose, la fierté de la nation juive qui était sous occupation romaine mais qui continuait à construire ce temple. Et alors il pose la question, d'abord il s'exclame, tu as vu Seigneur ces grandes constructions. Et Jésus dit que tout sera détruit. Et effectivement, tout a été détruit. Et quand le Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, tout arrivera pendant cette génération, il parle de la destruction du temple. En fait, le temple d'Hérode a été reconstitué à l'entrée de Jérusalem, j'ai pu le voir quand j'étais là-bas. C'est vraiment colossal, hein. Ils ont fait une maquette, rien que la maquette simplement est impressionnante. Et je comprends que les disciples aient été complètement ébahis de voir cette construction énorme. Vous savez que l'intérieur du temple était recouvert d'or ? Extraordinaire, hein ? À l'intérieur, ils avaient recouvert, ils avaient plaqué, je sais pas, vous faites des travaux en ce moment ? Le BA13, c'était de l'or, quoi. Pour ceux qui bossent, hein, le BA13, c'était de l'or. Ils avaient plaqué le temple en or à l'intérieur. Extraordinaire. C'est un autre monument. Il se trouve à Rome. C'est un arc de triomphe. L'arc de triomphe de Vespasien. Alors pourquoi est-ce que je vous le montre ? Parce que cet arc de triomphe qui se trouve à des milliers de kilomètres du temple de Jérusalem a un lien avec le temple de Jérusalem. Et c'est la dernière fois qu'on voit le temple de Jérusalem ou des objets du temple de Jérusalem. Le temple a été fini d'être construit en l'an 63. En l'an 64, l'an 66, il y a eu une grande révolte de toute la Judée contre l'Empire romain. Ils ont voulu se libérer. Et ils ont vraiment fait vaciller l'Empire romain dans cette partie du monde. Rome n'a pas été contente du tout. Ils ont envoyé leurs troupes. Et c'est l'empereur Titus qui a investi la ville de Jérusalem pour faire l'exemple qu'on ne résiste pas à Rome. C'est-à-dire que 7 ans plus tard, après que le temple ait été fini d'être construit, il a été complètement démoli par l'armée romaine sous l'empereur Titus. Et si vous êtes à Rome et que vous passez sous l'arc de triomphe, vous allez voir ce bas-relief. Et ce bas-relief représente les troupes de l'armée romaine sous Titus en l'an 70 de notre ère qui ramènent à Rome victorieusement les objets. Vous notez ici la menorah, hein, le chandelier à 7 branches, hein, et l'arche de l'Alliance. N'en déplaise à Indiana Jones, on ne peut pas la retrouver. C'était des objets en or. Vous savez que l'or, ça se fond, ça se monnaie, etc. Tous ces objets ont disparu, hein, par les marchands de l'histoire. Mais ils sont arrivés à Rome et c'est la dernière fois qu'on les voit. Effectivement, le temple a été complètement détruit. Quand vous avez cette citation, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, ça fait allusion à cette scène de l'an 70, quand Jérusalem a été investie par les armées. Ailleurs, Matthieu, qui parle plutôt à des Juifs, dira « Quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, parce que celui qui lit savait que le prophète Daniel avait parlé, un jour, il y aurait une abomination qui serait établie dans le lieu saint. » Ça a eu lieu dans le passé, où ils avaient construit une statue dans le lieu saint. Je crois que c'était un empereur, un des suivants d'Alexandre, un empereur séleucide, qui avait mis une statue païenne en plein lieu saint, l'abomination. Et il a dit, ça va se passer de la même chose. Et effectivement, en l'an 70, la même chose s'est passée. Les insignes romains ont été plantés au milieu du temple. Et donc, Jérusalem investie par les armées, c'est le signe. C'est le signe que le Seigneur a donné à ses disciples. Ce temple sera détruit. Et vous allez me dire, quand on visite Jérusalem, on voit ça aujourd'hui. le Kotel, le mur des lamentations. Vous êtes allés à Jérusalem, peut-être, certains d'entre vous, et vous êtes allés au Kotel, un jour de Shabbat. C'est là qu'il faut le visiter. Hein. C'est impressionnant. Le mur des lamentations. C'est tout ce qui reste. Et vous allez me dire, mais alors, attends, la prophétie de Jésus, elle ne s'est pas vraiment accomplie à la lettre, parce qu'il avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Hein, d'accord ? On est pointilleux en France. Hein. Alors là, il y a des pierres, hein, n'est-ce pas ? Alors, petite précision, les pierres que vous voyez sont là. C'est les embases du temple de Salomon, d'accord ? Il a parlé du temple d'Hérode, qui est bâti dessus. Et vous savez pourquoi il ne reste pas pierre sur pierre du temple d'Hérode ? Parce que la ville, en l'an 70, a été mise à sac par l'Empire romain, les troupes romaines. Ils ont tout brûlé, absolument tout. Les maisons, tout. Et bien sûr, le temple, ils l'ont brûlé. Mais il y avait l'or dedans. Et Titus avait donné des ordres qu'on récupère l'or du temple. Et donc, toutes les pierres ont été décellées pour récupérer l'or du temple. Et effectivement, du temple d'Hérode, il n'est pas resté pierre sur pierre, debout. La précision du Seigneur, chirurgicale, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera démoli. Effectivement, ça a eu lieu à la lettre. Ceci est extrêmement fort et vous le retrouvez, c'est un principe biblique que vous retrouvez bien souvent dans les Écritures. Quand un prophète parle et qu'il parle de quelque chose de lointain, il donne un signe qui va s'accomplir pendant sa génération. Parce que c'est facile de parler de la fin des temps. Personne ne sera là peut-être pour le voir. On peut dire tout et n'importe quoi. Sauf quand on parle et qu'on dit quelque chose d'aussi extraordinaire et abracadabrant que ce temple où il ne restera pas pierre sur pierre, ça arrivera pendant votre génération. Le Seigneur est mort et ressuscité en l'an 33 ou 35, selon la chronologie, hein, en l'an 70. Donc bien pendant sa génération, le temple est démoli. Et là, c'est un signe. Tu te dis, mais l'autorité, quoi. L'autorité de cette prophétie, elle est énorme. Le temple, la destruction du temple sert de signe à l'exactitude de la prophétie du Seigneur sur la fin des temps. C'est un principe prophétique que vous connaissez peut-être, l'accomplissement proche, l'accomplissement lointain. Et c'est exactement ce qu'on trouve ici. Ça va ? Je ne vous perds pas ? Non, c'est bon. C'est incroyable, hein, la précision de la parole du Seigneur. C'était vraiment la parole incarnée qui nous visitait. Et donc, la parole incarnée qui nous visitait a parlé aussi de la fin des temps. Et comme ce signe s'est accompli à la lettre, alors il y a une très grande autorité sur ces versets que j'ai surlignés en jaune et qui parlent effectivement de la fin des temps. Alors, si vous avez vos Bibles, on peut les reprendre. Je ne vais pas reprendre les slides. Oui, je les ai reprises quand même. Excusez-moi, j'ai 61 ans. Des fois, ma mémoire, elle commence à... Dans un moment de lucidité, je me suis dit, on va les remettre, ces slides. Et voilà, ce sont les slides, les versets qui parlent de la fin des temps. Vous avez vu, c'est très restreint dans tout le discours du Seigneur. C'est juste la fin. Alors de quoi il parle avant, de toute cette détresse? Parce qu'il parle d'une grande détresse, il n'y en aura pas une autre depuis le commencement du monde. Et nous, on mélange tout. On pense que c'est la détresse actuelle, la grande tribulation peut-être future. Non, non, non. Le Seigneur est en train de parler au peuple juif. Et il parle de la détresse qui va arriver au peuple juif à partir de l'an 70. C'est un mot grec qui est le même que celui que vous trouvez dans l'Apocalypse, la grande tribulation, détresse, slipsis. C'est la détresse du peuple juif. Ils ont connu la détresse, ils ont connu la déportation, mais cette déportation, cette détresse sera tellement grande qu'il n'en existera plus depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui arrive, et c'est ce qui arrive en ce moment, depuis l'an 70. Et ne me dites pas jusqu'à 1948, la reconstruction de l'État hébreu. Je l'ai visité, l'État hébreu, et je suis juif de par ma mère, et je peux vous dire une chose, la détresse du peuple juif continue. Elle n'est pas arrêtée. Visiter Jérusalem, c'est une ville sous pression. J'ai voulu visiter le Kotel. J'ai été arrêté à cause des sirènes. On me disait, c'est le début du Shabbat, il faut retourner dans les bus. Ouais, non, c'était pas le début du Shabbat, c'était des roquettes qui venaient de la bande de Gaza. Heureusement qu'ils ont d'hommes de fer et que ces roquettes ont été explosées juste avant d'atteindre Jérusalem. J'ai vu des grandes traînées noires dans le ciel. J'ai pensé au roi David. J'ai pensé à ces psaumes. C'est quelqu'un qui a toujours vécu dans le danger. Ils vivent dans le danger, dans la pression constante. Mais ils ont l'habitude, ils savent faire. Et quand vous êtes un touriste, vous ne le voyez pas. C'est juste le début du Shabbat. Retournez dans les bus. Non, ce n'est pas le début du Shabbat. C'est une attaque. On est attaqué en ce moment même par des roquettes. Et ils vivent tout le temps comme ça. Les histoires que j'ai entendues là-bas, parce que je suis juif, ils me les racontaient à moi. C'était incroyable tout ce qu'ils vivent. C'est une pression extraordinaire. La tribulation du peuple juif continue. Elle continue encore aujourd'hui, même malgré la reconstruction de l'État hébreu. C'est le peuple, imaginez simplement une seconde, le peuple ukrainien. Imaginez que la Russie détruise l'Ukraine. Je ne le souhaite pas. Mais imaginez que l'Ukraine soit complètement démolie, que l'Ukraine n'existe plus, et que le peuple ukrainien aille de nation en nation. Vous pensez qu'il y aurait toujours une culture ukrainienne, une langue ukrainienne, dans 2000 ans? En plus, si toutes les nations ne les reçoivent pas, là, on les accueillerait. Mais si toutes les nations les rejetaient à la mer, c'est ce qui s'est passé pour les Juifs. 2000 ans après, ils existent toujours. Ils ont toujours leur même écriture, leur tradition. C'est extraordinaire. Ça ne peut pas arriver, ça, dans l'histoire de l'humanité. Ça arrive, pourquoi? Parce que le Seigneur doit revenir et qu'il reviendra à Jérusalem. Et donc Jérusalem devait être reconstruite. Et le peuple juif devait être rassemblé à Jérusalem. Tout est en place pour le retour du Seigneur. C'est la seule raison. On parle de la résilience du peuple juif. Non, c'est pour que la prophétie s'accomplisse. Et elle s'accomplira. Et le Seigneur en parle. Et voilà qu'il parle maintenant de la fin des temps. Et il dit, il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantés par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Là, on parle d'une autre chose. Tout ce qui s'est passé avant, ça se passe depuis que le monde est monde. Mais là, ce qui se passe, c'est quelque chose de particulier. Dans les temps de la fin, quand les temps de la fin seront là, on ne se dira pas « est-ce que c'est la fin ?» On dira « c'est la fin ». Le monde a eu un commencement, et il aura une fin. Et il n'y a plus personne qui fera de la philosophie, qui essaiera de voir des prophéties dans des chiffres ou je ne sais pas trop quoi. Ça sera à la télé, ça sera partout. C'est la fin. C'est ça dont le Seigneur parle. Donc, je ne crois pas que ce soit encore le cas aujourd'hui. Mais ça peut arriver n'importe quand. Et c'est ça que le Seigneur dit. Après, il donne plein de paraboles de vigilance. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Quand j'entends des chrétiens qui parlent de la fin des temps et qui ont un discours catastrophiste, j'appelle cela, excusez-moi, l'évangile de la peur. Tu sais, c'est comme la bande de potes qui va dans la maison un petit peu isolée. Tu vois, ouais, on va passer un bon week-end, mais il y en a un qui a la pétoche. Et il met la pétoche à tout le monde. C'est vrai ou pas? La peur se communique. Et il y a des gens qui communiquent l'évangile de la peur. C'est la fin des temps, c'est fini. Le Seigneur dit exactement le contraire. Si ton étude de la fin des temps te fait aboutir à un état intérieur apeuré, déstabilisé, c'est que tu as mal étudié. Le Seigneur dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez la tête, votre délivrance est proche. Théoriquement, ce qui devrait nous motiver, c'est que justement, la fin étant proche, nous avons une opportunité comme jamais de partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La civilisation éternelle, c'est pour demain. Et ça devrait nous enthousiasmer. Nous enthousiasmer. Parce que la fin est proche. Vous avez deux façons de l'entendre, cette phrase. Comment l'entendez-vous ce matin? Il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Je vous ai donné un signe, le signe du temple. Alors croyez que ce que je vous dis là, ça va arriver. Je paraphrase le Seigneur. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il est en train de parler des événements de la fin. Je sais qu'il y a des lecteurs de la Bible qui disent les puissances des cieux, le soleil, la lune et les étoiles, c'est symbolique, ça symbolise les puissances, les princes, les rois, parce qu'effectivement dans la Bible, quelquefois, le soleil, la lune, les étoiles, c'est des symboles pour parler du roi, de la reine, etc. Peut-être que dans la fin des temps, il y aura un ordre mondial qui sera en décadence totale, je ne sais pas. Moi, je suis juste un homme de la rue. Hein. Je ne m'occupe pas des choses qui sont trop élevées pour moi. Mais je sais une chose, c'est que l'apôtre Pierre, qui était un autre gars assez simple, a parlé de ces choses-là, et lui, il en a parlé plutôt littéralement. Il a parlé des éléments qui se dissoudront, de la terre, qui, comme elle a été jugée par l'eau, sous les temps de Noé, sera jugée par un déluge de feu. J'aurais tendance à penser, avec une lecture simple, que ces choses-là vont arriver littéralement, et qu'effectivement, il y aura un déluge de feu sur la terre. Je ne pense pas, honnêtement, que ce soit l'homme qui fera arriver ce déluge de feu. Je ne pense pas que ce soit M. Poutine ou une autre personnalité de ce monde qui fera ça. La responsabilité de la destruction de la planète reviendra au propriétaire, c'est-à-dire Dieu. C'est lui qui le fera. Et quand il le fera, ça voudra dire que c'était le bon moment pour le faire. Il pourrait le faire n'importe quand. Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi ne le fait-il pas maintenant? Que répondre à nos amis qui nous disent « Si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il tolère l'injustice ?» Est-ce que Dieu ne serait pas capable de faire tout ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Hein, exactement pour la même raison que moi, en tant que papa, je me retiens de discipliner mon enfant qui fait n'importe quoi, en étant trop sévère et en pensant « Il va comprendre. Je vais juste lui faire les gros yeux encore. » Mais pour qu'une partie du monde se repente et croit tout simplement. Tout simplement, parce que le Seigneur use de patience, parce que le Seigneur est bon. Pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il est petit, parce qu'il est occupé à autre chose, mais parce qu'il est bon. Parce qu'il attend. Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent être sauvées. Parce que je suis reconnaissant au Seigneur, qu'il n'ait pas appuyé sur le bouton avant 35 ans en arrière, date de ma conversion. Parce que je suis reconnaissant au Seigneur, qu'il soit encore patient. Mais pendant le temps de sa patience, je crois que le Seigneur compte sur nous. On croit en lui et il croit en nous. Nous sommes son programme. Nous sommes son programme pour le monde. C'est vous et moi. Ça a l'air pathétique, hein, quand même, non? Tu as l'air de dire, Seigneur, tu n'as pas un autre plan, quand même? Non? Si on échoue, nous, tu n'as pas un plan B? Pas de plan B. Le Seigneur compte sur nous pour qu'on propage l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je voudrais fortement vous encourager à la lecture de ce texte, vous encourager à cette vigilance spirituelle que le Seigneur nous demande. Intégrez ces choses-là, si vous ne l'avez pas déjà fait, dans votre culte personnel. Intégrez-les dans votre culte personnel. Vous êtes dans un espace-temps qui s'appelle le dernier acte direct de Dieu sur la terre, ça sera ça. La dernière fois que le Seigneur a agi directement dans notre sphère, c'était la Pentecôte. C'est quand il a donné le Saint-Esprit qui depuis se diffuse dans l'Église chaque fois que quelqu'un croit. Le prochain événement dans l'agenda de Dieu, c'est ça. Et entre-temps, il nous demande d'être vigilants. Parce que c'est tellement facile d'oublier ces choses-là, de sortir de là et puis de dire, voilà, de vivre sa vie chrétienne, peut-être d'une façon un peu routinière. Je vous assure que ces vérités, quand elles sont prises à bord, changent absolument la manière de voir le monde, de voir Dieu, de se voir soi-même, de voir ses voisins, ses collègues de travail. Et je ne dis pas de vous transformer en espèce de fou qui montait sur une chaise et qui... Tu vois, c'est pas ça que je veux dire. C'est de vivre dans une vigilance. Dans une vigilance où on saisit toutes les occasions, avec sagesse, pour parler de ce qui va arriver. Parce que ce n'est pas de la tarte, c'est la vérité. Parce que le Seigneur a vraiment annoncé ces choses. Parce que ces choses vont vraiment arriver. Et aujourd'hui, peut-être au 21e siècle, vous vous dites, ben, je comprends peut-être un peu plus que ça peut effectivement arriver. Moi, dans ma tête, de petit homme de la rue qui n'est pas un scientifique, je me dis, si le Seigneur donnait juste une petite chiquenaude à la Terre, juste comme ça, et qu'il faisait dévier son orbite pendant juste une journée, qu'elle s'approchait un peu du Soleil et qu'elle s'éloignait ensuite, il y aurait exactement l'accomplissement d'une prophétie qui disait, ce sera un jour de l'Éternel connu de lui seul. Un jour comme il n'y en a pas eu depuis la fondation du monde. Le matin, ou dans la journée, tout sera en flammes et le soir, la glace paraîtra. Ça pourrait arriver dans 24 heures. si simplement il y avait une petite perturbation de notre orbite terrestre. Et je vois, peut-être avec mes yeux d'enfant, que je sais pas, le Seigneur très grand, en dehors de notre système, bien capable de faire ça. C'est rien pour lui. Et peut-être qu'il a bien d'autres manières d'accomplir la prophétie. Mais moi, à ma petite échelle, je me dis, mais c'est tellement probable que quand le Seigneur décidera, c'est exactement ce qui arrivera à la lettre. Alors je vous encourage à, continuer à lire cette lecture, continuer la suite, parce qu'il y a des paraboles intéressantes de vigilance, où le Seigneur parle justement de Noé, dit, ben ça s'est passé dans le passé, avec l'eau, ça se passera de nouveau. Ça nous fixe dans un espace-temps, dans un espace politique aussi, dans un espace temporel, politique, je dirais social, cette prophétie. Ça nous permet de ne plus vivre comme sur une petite île, dans l'entre-soi. Mais il y a quelque chose à faire en tant que communauté, il y a quelque chose à faire en tant que disciple, et il y a quelque chose à faire aussi en tant qu'union d'église, j'en suis absolument convaincu. Avec sagesse, bien sûr, avec équilibre, mais avec vigilance. Je vais prier, et je vous remercie pour votre attention, pour votre invitation. Ça me fait toujours plaisir de venir à Sonra. Seigneur, on voudrait te demander humblement, notre Père, toi qui nous as enseigné à prier ces premières paroles, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Nous savons que nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous savons que quand ces choses arriveront, tu nous préserveras, il nous gardera, nous l'avons encore chanté. Nous ne savons pas le moment, tu n'as pas voulu répondre à la deuxième question des disciples au niveau des temps et des moments, mais tu nous as donné assez d'éléments pour qu'on sache que ça peut arriver n'importe quand. Tu nous as pas appelé à avoir peur, tu nous as dit tout le contraire, relevez la tête, votre délivrance est proche. Tu nous donnes des ordres de vigilance. Tu nous donnes aussi, Seigneur, l'envie de partager cette bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant peut-être par la porte d'à côté. Seigneur, intègre, s'il te plaît, ces vérités profondes et qui se sont accomplies à la lettre pendant ton temps et pendant ta génération, avec la destruction du temple en l'an 70. Seigneur, s'il te plaît, imprime ces vérités profondes du temps que nous vivons dans nos cultes personnels, dans nos assemblées, et dans notre manière de voir les choses, dans notre manière d'envisager notre carrière, nos achats, nos possessions. Oui, Seigneur, notre vision de notre vie terrestre. Seigneur, aide-nous. Nous avons tellement besoin de toi en Occident, Seigneur. Nous sommes poussés à te demander pardon pour le matérialisme, pour le fait que nous avons souvent une vue très courte, qui ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Et quand il se passe des choses aux portes de l'Europe, alors nous sommes soudain dans l'effroi et nous disons, alors il n'y a plus rien qui va. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, rends-nous forts. Donne-nous, Seigneur, la vision qui était la tienne et que tu as partagée à ceux qui ont eu le courage de t'approcher pour te poser un peu plus de questions ce jour-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen.